midi 14h.
Brunet Neumann, Éric Brunet.
Merci Valentine Roux. Mesdames, messieurs, vous êtes sur RMC avec cette question. Le gouvernement réfléchit donc à rendre obligatoire le port du masque dans les lieux fermés. Qu'en pensez-vous? C'est intéressant, il y a quelques instants, le docteur Sebag, qui était avec nous, hein, de la Pitié-Salpêtrière, qui nous a accompagnés pendant tout le Covid-19, tous les jours pratiquement, hein, disait « C'est scandaleux que le gouvernement ne fasse que réfléchir à la question. Il ne faut pas réfléchir à la question. Il faut tout de suite foncer. Il faut tout de suite rendre légalement le masque obligatoire, disait-il, dans tous les lieux publics, dans tous les lieux recevant du public, qu'il s'agisse de commerce ou de locaux administratifs. » Voilà quelle était son opinion, mesdames, messieurs. Alors, je voudrais à cet égard qu'on écoute le nouveau Premier ministre de la République française. Vous savez qu'il est parti pour cause de Covid en Guyane, la Guyane qui est très touchée par l'épidémie. Voilà ce qu'il disait hier soir, Jean Castex.
Le port du masque est l'une des manières de prévenir la propagation de l'épidémie. Donc je vous confirme que la question de développer l'usage et le port du masque est bien à l'étude. Cela surtout concernerait prioritairement tous les lieux, quels qu'ils soient, clos. Puisque vous savez toutes et tous que la circulation du virus se constate d'autant plus que les lieux sont fermés.
RMC, l'avis d'Éric Brunet.
Mais moi, c'est le bonheur quand j'entends Castex. Hein. C'est tellement rare, on a fait une émission entière là-dessus, des gens de premier plan en la République française qui ont l'accent du Sud, c'est tellement rare. Et moi, quand je pense que mon accent, je me suis forcé à le perdre pour faire ce métier, parce que ça se faisait pas, on me l'a pas demandé, hein, mais que quand j'entends Castex, que je sois d'accord ou pas avec lui, je m'en fous, c'est pas le sujet, ça me met le cœur en joie qu'un type ait réussi à passer à travers les mailles du filet et devenir Premier ministre. Il y en a eu 25, hein, Premier ministre depuis, ou 24, 25, depuis De Gaulle, depuis 1958, il y en a pas un qui avait l'accent du Sud, hein. Et président de la République, il y en a jamais eu un qui avait l'accent du Sud, hein. Il y a des présentateurs du journal de 20h, il y en a eu des centaines, il n'y en a jamais eu un qui avait l'accent du Sud, alors que 50% des Français ont un accent quand même. Donc oui, je referme cette parenthèse, mais je vous avoue que ça me fait plaisir quand j'entends un personnage de premier plan, voilà, qui a l'accent du Sud-Ouest, parce que voilà, à croire que ça fait pas sérieux d'avoir l'accent, hein, à croire qu'on ne confie pas des responsabilités de représentation importantes à un type qui a l'accent, parce que je sais pas, ça doit faire branleur, quoi. Il doit y avoir une raison quand même, hein. Bon, je me tourne vers toi. Est-ce que on a entendu beaucoup Lisa Marie dans la première heure de Brunet Neumann au standard, des gens qui nous appellent au 32-16 et qui nous disent: je suis contre le port du masque dans les commerces, dans les restaurants, dans les, je sais pas, dans la poste. Et bon, et parfois, il y a des arguments un peu poussifs. Au fond, il y a 20% de ceux qui votent, là, apparemment, qui sont contre, hein, c'est ça, qui sont.
C'est ça, toujours 20%. Et effectivement, le magazine Forbes, ouais, le magazine américain Forbes, il a réalisé un classement, un top 10 des excuses pour ne pas porter un masque pendant la pandémie.
Que disent les gens? Alors, fais-le moi de 1 à 10, vas-y.
Alors, la première raison, c'est la liberté. Ouais, une atteinte à la liberté de porter un masque.
C'est un truc très américain, ça. I am free, so I don't porte de masque.
I don't wear a mask. La deuxième raison, c'est le.
Un petit franglais, là. I am free, so I don't porte masque. Ça marche aussi.
La deuxième raison, le virus n'est pas réel ou n'est pas si grave. On en fait des caisses, ouais, il n'est pas si grave.
Ça, c'est un truc de complotiste américain aussi. Il n'existe pas. Voilà.
Troisième raison, le masque causera divers problèmes médicaux. Ça empêche de respirer, ça empêche de travailler, de correctement travailler quand on le porte.
D'accord.
Quatrième raison, demander de porter un masque est une forme de discrimination. Ça rejoint un petit peu la liberté. Cinquième raison, vous avez été testé négatif pour le coronavirus, donc puisque vous êtes négatif, vous ne portez pas le masque. Sixième raison, ce n'est pas cool ou ce n'est pas viril. Alors ça, c'était un petit peu, ça rejoint un peu ce que disent les électeurs de Trump. Hein.
Comment c'est pas... Oui, je suis courageux, j'ai peur de rien, moi j'ai pas peur, moi je porte pas le masque, j'ai pas peur. Oui, je vois.
C'est ça. Septième raison, vous ne pouvez pas attraper le virus puisque ce virus n'existe pas vraiment ou la probabilité de l'attraper est trop faible, donc pas d'intérêt. Huitième raison, le masque empêche la communication. Je porte en masque, je communique mal, donc je n'en porte pas. Neuvième raison, le masque est un symbole politique et culturel. Et enfin, la dernière raison, c'est que les conseils sur les masques n'ont cessé de changer, donc Puisque je n'y comprends rien, je ne porte pas de masque. Et là, ça rejoint peut-être un peu plus la France.
Très bien, on va aller tout de suite au 32-16 dans le Puy-de-Dôme. On ira également dans les Alpes-Maritimes. Pour ceux qui, je sais pas, il y a peut-être des gens qui sortent du coma après des années, donc ils savent pas encore, ils découvrent Brune Hanneman. Ils ne savent pas comment voter sur RMC dans Brune Hanneman. Donc Lisa Marie, tu vas leur dire, imagine un mec qui s'appelle Paul, il vient de se réveiller du coma ce matin à 9h30, il écoute Brune Hanneman, il dit c'est vachement bien ce truc-là, ça existe depuis longtemps. Ah mais comment fait-on pour voter? Alors t'écoute.
Pour voter, rendez-vous sur rmc.fr et l'application RMC et sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Brune Hanneman, le Twitter d'Éric et la page Instagram RMC Off, ça se passe en story.
RMC, Brune Hanneman,
32-16. Ouais, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, qu'il neige. Hein, vous voyagez toujours dans Brune Hanneman sur RMC. Petit voyage du côté des monts d'Auvergne. On est dans le Puy de Dôme avec François qui a fait le 32-16. Salut François.
Oui, bonjour.
Bon, mon cher François, que fais-tu dans la vie?
Je suis cadre à l'international.
Cadre à l'international, dans une entreprise du côté de Clermont-Ferrand, j'imagine.
Oui, complètement. Oui.
Bon, tu es pour ou contre le port du masque dans les lieux publics?
Alors, très clairement, je suis contre.
Ah.
J'en reviens très, très rapidement sur les intervenants de Thierry et Sylvie qui ont pratiquement tout dit.
Oui.
Et un peu comme Sylvie, je suis comme Sylvie, à savoir que je rentre dans un magasin. Si on me demande de mettre le masque, je remercie et je pars.
Ah bon ?
Alors, du coup, moi j'ai trois petits points à relever.
Non, mais d'abord, pour quelle raison ? Parce que est-ce que c'est une façon pour toi de cultiver ta différence et de jouer le rebelle ? Parce qu'au fond, si un magasin te dit porter le masque, ça veut dire, monsieur, je fais grand cas de votre santé, je prends soin de ta santé, et je t'aime et je t'es un client important pour moi, mets le masque parce que je protège mes clients, quoi. Non, tu le vis pas comme ça.
Non, pas du tout. Je le prends comme on a nous obligé à faire quelque chose qui en fait a pas été démontré. Alors, ce qu'a dit Sylvie, et c'est sur là-dessus que je voulais rebondir. À savoir que les gens avaient découvert aussi que le geste basique de l'hygiène, c'était de se laver les mains. Or, tout le monde sait que de sortir des toilettes publiques, ben, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Ce n'est pas nouveau. Et depuis le déconfinement, ben, les gens n'ont pas vraiment changé d'habitude. Alors, ça pose quand même un problème. Sylvie l'a bien dit. À quoi donc vont servir les masques si chacun continue à les toucher, à ne pas savoir comment les mettre ou à les ôter, aller poser n'importe où, et donc elle a parlé de son sac, mais ça peut être des poches, et aussi, je rajouterai, aller jeter n'importe où. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, moi je voulais parler très rapidement de nos aînés, puisque ils ont été partie prenante, hein. Et moi j'ai des parents qui ont 90 ans, et ils ont vécu le confinement comme un droit, comme on les a privés de liberté, très clairement. Et finalement, ils ont dit, on aimerait quand même choisir de la façon dont on aimerait finir notre vie. Donc, ils prennent soin d'eux depuis de nombreuses années, ne se vaccinent pas contre la grippe, et très clairement, tout va bien. Et concernant le troisième cas, le troisième point que je voulais développer, il semblerait quand même que pendant que les autorités essayent de sauver tout le monde, on oublie de dire que la planète est trop peuplée. Alors, oui, vous allez me dire que c'est politiquement incorrect, mais je m'en moque, puisque néanmoins, il faut, à force de vouloir sauver tout le monde, on sait bien que les gens qui sont décédés, et c'est triste, hein, je suis le premier à en convenir, mais ces gens qui étaient en EHPAD, la plupart, ils étaient déjà atteints de pathologie, et pour ainsi dire, ils avaient déjà un pied dans la tombe, alors donc c'était que partie remise. Hein.
Non mais attends, c'est partie remise pour toi, pour moi, pour tout le monde à ce moment-là. On est tous potentiellement des gens qui avons des pathologies associées. Parce que pour trouver un type de plus de 30 ans ou une femme de plus de 30 ans qui, en cherchant bien, n'a pas une pathologie associée, il y a toujours quelqu'un qui fait un peu d'hypertension, il y a toujours quelqu'un qui a un peu de cholestérol, il y a toujours quelqu'un qui a un peu de diabète, il y a toujours quelqu'un qui a un peu de... Tu vois, on n'a jamais les analyses impeccables. Donc toi aussi, tu as un pied dans la tombe, moi aussi. On a tous des pieds dans la tombe. Non,
mais je l'assume. Moi, je l'assume. Ouais. Donc, cette histoire de masque, je ne dirais pas que ça me révolte, mais je l'assume. Si je tombe malade, que je finis en urgence, tant pis pour moi. Ouais. Mais très clairement, on ne peut pas le jour d'une pandémie, pardon. Et d'ailleurs, je ferai remarquer que pendant que la France nous demandait de mettre des masques, très clairement sur le site de comment ça s'appelle en français là de WHO, la santé mondiale.
D'accord, de l'OMS.
Sur leur site, c'était bien indiqué que le port du masque n'était pas obligatoire, qu'il n'y avait aucune preuve que
ça a changé,
faisait une différence. Donc si l'OMS se positionne de cette façon, enfin, il faut quand même...
Ça a changé. L'OMS aujourd'hui recommande fortement le port du masque, désormais.
Il s'est contredit, on est bien d'accord.
Oui, mais attends, si c'est pour me dire qu'il y a eu des grosses foirades, on va être d'accord, toi et moi, mon cher François de Clermont-Ferrand, on va être d'accord. Et je dis simplement qu'aujourd'hui, oublions quelques instants les polémiques, parce qu'on y verra plus clair. Mais aujourd'hui, je ne te comprends pas, on a tous envie d'éviter un confinement, tu l'as dit toi-même, c'est la privation de liberté, c'est insupportable. Bon, ben, la seule façon qu'on ait trouvée, c'est de faire porter un masque dans les lieux publics aux gens, parce qu'au moins, il y a moins de projection de salive, et puis, voilà, ça filtre une partie de l'air que nous respirons, pas tout. Alors, tu aurais raison de dire que ça n'évite pas toutes les contaminations, mais bon, globalement, c'est quand même mieux. C'est pour ça que je ne comprends pas. Là, j'ai l'impression que tu fais de l'idéologie à trois sous pour revendiquer ta liberté, pour montrer que tu es un rebelle, que l'État nous trompe, etc. Mais en fait, c'est juste du bon sens, un masque. Tu le mets dès que tu rentres dans ton magasin pour, aller acheter une coque pour ton téléphone portable. Si tu veux acheter une paire de pompes dans un magasin, ben voilà, tu le mets pendant 20 minutes, le temps d'essayer tes chaussures. Il y a d'autres clients. Si tu vas dans un hypermarché, même chose. Puis après, tu sors et tu rentres chez toi. Mais je trouve que tu mets de l'idéologie dans un truc qui n'est pas si idéologique que ça.
Eh bien, moi, je respecte ta décision, si tu me permets de te tutoyer. Mais très clairement, je peux aussi répliquer que c'est une idéologie à trois sous que de vouloir nous faire porter le masque. On a le droit, on devrait avoir le droit de le porter ou non. Après, si les gens veulent assumer d'être malades, eh bien, c'est leur droit. J'en fais partie et c'est comme ceci.
Ouais,
voilà.
Sauf, alors j'entends ce que tu dis très bien. Sauf si tu le chopes dans ton hypermarché demain ou dans ton magasin de chaussures ce soir et que tu contamines tes parents ou que tu contamines une personne de 50 ans qui se retrouve en réa. Enfin, tu vois, je prends encore une fois un exemple un peu dur et radical, mais tu vois, voilà. Donc là, ça n'est plus que ton affaire. C'est aussi l'affaire du mec qui se retrouve en réa.
Bien entendu.
Voilà.
Mais j'ai pas 100% de garantie que je vais pas l'avoir avec la prise de masque. Je limite.
Ouais.
On est bien d'accord, hein. Je limite, mais j'ai pas de garantie. Donc, quitte à pas avoir de garantie, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ma question.
Bien, merci François, qui est cadre dans une entreprise de Clermont-Ferrand et qui est avec nous avec une position assez, je pensais, assez iconoclaste et rare, mais c'est le troisième. C'est le troisième qui passe à l'antenne. Hein, on avait eu Sylvie il y a quelques instants, on avait eu notre premier auditeur qui s'appelait comment, Benoît, non ?
Thierry,
pardon. Là, c'est François et vous êtes assez nombreux à être sur cette ligne-là. Continuez à nous appeler, mesdames, messieurs. Je vous annonce que nous irons dans quelques instants. On quitte l'Auvergne, on ira à Cannes. À tout de suite.
RMC, midi
14h.
Brunet-Neumann.
RMC, midi
14h. Brunet-Neumann. Éric Brunet.
Bon, les petits cadeaux de Brunet-Neumann sur RMC, vous les connaissez. Hein, c'est la semaine qu'on vous offre, hein, pendant toute la semaine. C'est le séjour, pardon, qu'on vous offre. Voilà ce que c'est de lire un papier sans l'avoir relu avant. Donc c'est bien un séjour qu'on vous offre toute la semaine à Europa Park, mesdames, messieurs. Parce que Europa Park, c'est un parc d'attractions de très très haut niveau qui est tout près de Strasbourg, de l'autre côté de la frontière allemande, et qui est assez sublime, paraît-il. Vous dormirez dans un hôtel 4 étoiles, donc c'est plutôt un beau cadeau. Alors pour vous amuser dans ce parc de loisirs qui est le meilleur parc de loisirs du monde, il a été élu comme cela, eh bien vous pouvez envoyez le mot PARC, P-A-R-C, en français, hein, PARC, par SMS au 73216. PARC au 73216. Je dois vous dire que vous profiterez de toutes les attractions de ce parc, que vous aurez également accès à Roulantica, qui est le nouvel univers aquatique indoor d'Europe Park, avec des toboggans, avec des piscines à vagues, avec des rivières. Voilà, donc 73216, parc, mesdames, messieurs. Et comme je vous l'ai promis, je tirerai au sort un gagnant à la fin de l'émission, à la fin de Brunanoman, juste avant 14h. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Et j'en reviens au thème de notre échange aujourd'hui. Vous êtes assez nombreux au 32-16. Le gouvernement, vous le savez, réfléchit à rendre obligatoire le port du masque dans les lieux fermés. Qu'en pensez-vous ? Je sais, ma douce Lisa Marie, que tu reçois beaucoup de messages. Je t'autorise à en lire deux ou allez, trois vraiment, si tu insistes.
Ah, c'est très gentil. Eh bien oui, alors les témoignages de ceux qui sont contre vous font beaucoup réagir. Il y a par exemple Chris qui nous dit « Ces personnes qui sont contre le port du masque n'ont certainement pas perdu un proche de la Covid, sans quoi elles se sentiraient bien plus concernées. Bel exemple de l'égoïsme ambiant français. » Et Peter nous dit « Bonjour, je ne comprends pas pourquoi tous ces gens qui ne veulent pas porter de masque se révoltaient il y a deux mois parce qu'il n'y en avait pas. » Et puis il y a Kim qui nous dit « Le problème, c'est que les gens utilise mal ce masque. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le mettre, de l'enlever, de le remettre ? Tout ça, c'est contre-productif. Et ceux qui le portent sous le nez et sur le cou, on en parle ?
Eh oui, ça c'est vrai. Bon.
RMC, Brunet-Neumann, 32-16.
Nous voilà donc à Cannes avec Benoît. Salut Benoît.
Brunet, vous allez bien ?
Très bien, mon cher Benoît. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Je suis dans le transport. Depuis 20 ans, j'ai une entreprise de transport dans les Alpes-Maritimes.
Dis-moi, tes livreurs ou tes chauffeurs plutôt portent le masque ?
Oui, bien sûr. Oui. En plus, nous, on voit de la clientèle âgée ou moins âgée. Donc oui, bien sûr, on porte le masque, gel hydroalcoolique, les gants si nécessaire. Oui, bien sûr, on fait tout ce qu'il faut. Oui. Ouais. Puis en plus, on va beaucoup dans des grosses sociétés, des grosses entreprises où le port du masque est obligatoire.
D'accord. Ils le respectent parce que c'est une chose de dire, à partir de maintenant, tous les salariés devront faire ça. Dans mon entreprise de transport, tous les chauffeurs, livreurs devront porter le masque. Et c'est une chose, mais une autre chose est de le faire réellement. Est-ce que c'est le cas ?
Alors, en fait, moi, je voudrais commencer mon intervention par ça. Bien évidemment que dans un monde idyllique et dans une société rêvée où le vivre ensemble est demandé, parce qu'en fait, c'est ça, aujourd'hui, on doit vivre ensemble. Si tout le monde était responsable, avait une forte responsabilité individuelle, non, je vous dirais, le port du masque ne devrait pas être obligatoire. Mais malheureusement, on est dans une société où il y a toujours
bien,
une...
Parle bien en face de ton téléphone.
Oui, je l'ai à l'oreille.
Très bien.
Donc, pour moi, nous sommes dans une société où il y a toujours une minorité qui ne respecte pas les règles. Et c'est pour ça qu'on doit avoir des dirigeants qui mettent des règles et qui nous obligent. Parce que malheureusement, ben, y en a qui sont pas très disciplinés. Et les règles et les obligations sont faites pour ça. Tout à l'heure, j'ai écouté l'auditeur François. Son point de vue est surprenant, mais il n'a pas tort. Bien évidemment qu'il y a un problème de surpopulation, mais c'est pas à lui de décider qui doit mourir ou qui ne doit pas mourir sans porter le masque. Moi, si demain il croise ma grand-mère sans le masque et qu'il contamine ma grand-mère, François, je vais aller le voir, je vais lui serrer les oreilles.
Ouais.
Donc c'est ça, voilà. C'est une société de vivre ensemble. Moi, mes salariés ont bien pris conscience que aujourd'hui, il y a quelque chose. Alors, effectivement, il y a un climat de confiance qui est très compliqué parce que nos dirigeants n'ont pas été très bons, ne sont pas très bons, on n'arrive pas à nous convaincre depuis des années, ça ne date pas d'aujourd'hui, et c'est pas que le climat du Covid qui fait qu'on n'a pas confiance en nos dirigeants, donc c'est sûr que cet ensemble de manque de confiance fait que, ben, y a des complotistes, il y a tout ce que vous avez cité, les 10 raisons tout à l'heure que votre collègue a cité, pour ne pas porter le masque.
Mmh. Mais, j'ai un petit regret quand j'ai raccroché avec François,
hein. François.
Mesdames, messieurs, si vous n'étiez pas là, François, c'était un cadre qui nous appelait au 32-16 de l'industrie. Il est à Clermont-Ferrand. Et alors, il a dit, bon, ben moi, si on me demande dans un magasin de porter un masque, je m'en vais tout de suite, je refuse de le porter. Et j'aurais dû lui dire, j'ai pas eu la présence d'esprit, j'aurais dû lui dire, si ce soir on se retrouve, enfin, si ce soir je vais acheter des chaussures dans un magasin, par exemple, j'espère que tu seras pas là. Quoi. Parce que c'est vrai, dans la vie quotidienne, on voisine avec des gens, y a des gens qui disent oh, moi, j'y crois pas, le Covid, etc. Sauf que les mecs, ils vont dans les mêmes endroits que toi,
que nous,
voilà, qu'ils sont à côté, et tu sais pas, il n'y a pas marqué sur leur tête je prends des risques comme un dingue tous les jours, que Dieu fait.
Voilà.
Donc,
moi, je suis ni professeur, je suis ni M. Raoult, ni Premier ministre. J'essaye d'écouter les infos, mais dans le doute, Ben oui, je me dis que le port de masque aujourd'hui est indispensable. Mmh. Et donc, moi, pourquoi je vous ai téléphoné? Parce que je voudrais quand même témoigner de ce qui se passe dans les Alpes-Maritimes depuis le début de l'été. Il faut savoir que le port du masque n'existe quasiment pas. On vous nous dit que les boîtes de nuit ne sont pas ouvertes, mais c'est totalement faux. Les boîtes de nuit ont détourné le système des boîtes de nuit. Ils font restauration pour attirer la clientèle. Et ensuite, ils sont ouverts jusqu'à 5 heures du matin. Ça danse, c'est collé serré. Tout le monde est collé serré. Dans la ville de Cannes, comme dans la ville de Nice, faut voir tout le monde les uns sur les autres. Donc aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, les Français sont relâchés, et ça se comprend, hein, ça se comprend largement. Même moi, le premier, je me suis relâché au début. Mais quand je vois ce que j'ai vu ce week-end à Cannes, à Nice, oui, malheureusement, les dirigeants n'ont pas le choix aujourd'hui que de nous obliger le masque. Ils n'ont pas le choix. Par contre, ils ont un souci. Il faudrait en parler. Et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, le Premier ministre est très prudent. C'est que les stocks, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de stocks si on doit obliger les Français à porter le masque. On va en avoir pourquoi pour un mois, deux mois. Mais si on doit tenir jusqu'en décembre, vous pensez qu'on a assez de stocks sur le territoire français?
Ouais.
Donc le Premier ministre, il est prudent parce qu'il peut faire griller. Donc s'ils disent que c'est obligatoire et que dans deux mois, on n'a plus de stocks, leur crédibilité, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, imaginez un peu.
C'est un vrai sujet. Tu sais qu'effectivement, j'espère qu'ils sont en train de s'activer dès à présent dans l'hypothèse d'un nouveau Covid saisonnier qui pointerait le bout de son nez cet automne, si ça n'est pas avant. Qu'est-ce que tu veux dire, Lisa Marie?
Je voudrais vous lire un extrait de la tribune Masquée mais en liberté qui a été rédigée par un certain nombre de médecins. Docteur Sebag en a parlé un peu plus tôt. Ils disent: le port du masque est ainsi une condition importante pour limiter la diffusion du virus. Nous y sommes habitués, même si cela reste inconfortable, et nous avons aujourd'hui les stocks nécessaires. Le port du masque ne vise pas qu'à se protéger soi-même, mais aussi à empêcher la diffusion du virus, à condition que tout le monde le porte.
Bien, merci de ce point, Lisa Marie. Merci à Benoît, qui est à Cannes, dans les Alpes-Maritimes, qui nous dit que c'est la fête au village dans les Alpes-Maritimes, que les boîtes de nuit qui sont censées être fermées ne sont pas fermées, qu'elles font restauration et qu'on y danse jusqu'à 5h du matin, mais qu'elles détournent le truc en la jouant. On est restaurant, hein, on n'est plus boîte de nuit, tu parles. Ouais. Bon, il n'y a pas que dans les Alpes-Maritimes que ça se passe comme ça. Merci Benoît. On va en Gironde retrouver Sébastien.
RMC, Brunet-Neumann, 32-16.
Salut Sébastien.
Hey, salut Eric, oh, ça me fait super plaisir de t'avoir au téléphone, hein. Et c'est quelque chose, hein, quand même. Enfin bon.
C'est toi qui m'émeut. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, justement, Sébastien,
Moi, je suis infirmier libéral sur la commune de Mérignac.
Mérignac, où il y a l'aéroport de Bordeaux. Ça veut dire que tu vas nous mettre une petite piqûre de rappel pour le port du masque dans les lieux fermés, confinés.
Pas du tout, c'est un peu le contraire.
Ah bon?
Eh oui. Ben, disons que le pic épidémique, il était il y a quelque temps déjà. Des morts, on n'en voit plus. Et c'est surtout que ce masque-là, ben, il est efficace, mais il est efficace dans un ensemble de choses, quoi. Et les gestes barrières, ils sont pas assez respectés pour que le masque vienne augmenter, en fait, cette protection contre le virus. Donc, on est un petit peu à contre-courant, c'est-à-dire qu'au départ, il en fallait parce qu'on était dans l'urgence, fallait se protéger au maximum, donc donner des masques, c'était important, ça montrait qu'il faut se protéger, etc. Et puis maintenant qu'il y a plus de morts, que les réanimations sont vidées, il faut mettre un masque. Donc
il y a quand même des morts tous les jours, hein.
Non, il y a pas des morts tous les jours, mais là.
Mais en France, il y a des morts, il y a plusieurs dizaines de morts tous les jours du Covid
Plusieurs dizaines.
Oui, 20, 30.
Je pense pas. Mais enfin, là, franchement, la catastrophe qu'on a eue là, au mois de mars-avril, on en est loin. Après, voilà, ce masque-là, je pense qu'il ne sera pas assez efficace. Si tu veux. C'est bien, c'est le principe de précaution. On veut quoi comme société demain, en fait? Parce que la grippe qui tue aussi les années précédentes, on se la refile les uns les autres et il y a des dégâts collatéraux. Nos anciens décèdent aussi de cette grippe que l'on transporte d'une personne à l'autre. Et on n'a pas mis de masque l'année dernière.
Non, elle est moins létale quand même. Elle est dans des 7, 8, 10 fois moins.
C'est le même mode de transmission. Oui. Donc, par le principe de précaution, quand je t'entends... Alors, je sais que tu le fais pas exprès de culpabiliser les gens dans le sens, tu mets pas le masque. Dans ce cas-là, si toi t'as le truc, tu le passes à quelqu'un de fragile, cette personne, elle peut décéder. Mais alors, dans ce cas-là, c'est-à-dire, c'est quoi comme société qu'on aura demain? Il faut, ça va être très, très compliqué.
Oui. Et après. En même temps, François qui disait, on est trop sur Terre, c'est bien qu'il y ait ce Covid.
C'est autre chose. Mais tous les témoignages sont intéressants. Et cette crise, elle révèle plutôt quel genre de société on veut demain, en fait. Et moi, je suis pas forcément pour que tout le monde soit masqué. Et déjà, faut avoir une formation. Et même nous, les soignants, quelquefois, c'est assez compliqué à appliquer parce que ça demande vraiment une perception du circuit, on va dire, propre salle propre qui est très fine et qu'on développe tout au long de notre carrière. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Alors c'est vrai que quand Sibeth Ndiaye a dit les gens ne savent pas emporter, il faut pas leur pas de masque pour tout le monde, je dirais, je simplifie, quelque part elle avait raison. C'est pas une question que la population est trop bête pour appliquer ça, mais c'est une question ça sera pas efficace comme on le souhaiterait, parce qu'à côté on fait pas les gestes qu'il faut.
Bien, merci. Très intéressant. C'est le témoignage d'un infirmier. C'est ça qui est étonnant, d'un infirmier libéral. Alors les chiffres, là, je les ai sous les yeux. Oui, il y a eu 25 morts supplémentaires hier en France. Je les donne, les chiffres, parce que c'est vrai qu'on voit plus le soir le directeur général de la santé. Là,
oui, on le voit plus.
Alors,
on le voit plus.
Là. Officiellement, je te donne les chiffres. Officiellement, donc depuis le début de l'épidémie, il y a eu 30 004 morts en France, donc 30 004. Hier, dans la seule journée d'hier, il y a eu 25 décès. Effectivement, c'est beaucoup moins qu'avant. Au total, il reste 7 062 personnes hospitalisées en France. C'est 115 de moins depuis hier, donc 7 062. Et en réanimation, si on prend que les personnes en réa, c'est 496. On a eu déjà 7 000 personnes,
après, mais on est à 400. Ils sont tous du Covid, je ne le pense pas. C'est certain. Et concernant la deuxième
vague... Si, 496 personnes en réa, pour cause de Covid. Pour cause de Covid.
Ça, on ne sait pas si c'est que du Covid.
Ah ben non, Covid, parce qu'au total, il y a beaucoup plus de gens en réa, il y a des milliers de personnes en réa.
Il y a toujours eu des gens en réanimation.
Oui, oui. Enfin,
en tout cas, les réanimations
sont plus
sous tension.
Bon, oui, ah ben non, c'est terminé.
Après, concernant la deuxième vague, en plus, on a appris énormément de choses pendant cette épidémie. C'est-à-dire que ça fait pas de nous tous des experts, mais on a pu en entendre les experts dans ces domaines savoir un peu comment marchaient les épidémies, et notamment c'est vrai que si on observe à présent l'hémisphère sud qui est rentré dans l'hiver et dont la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont aussi été touchés. Et c'est pour ça qu'au Brésil, ils sont encore sûrement en plein pic épidémique, parce qu'ils font partie de l'hémisphère sud. Mais chez eux, c'est arrivé plus tard. Mais la Nouvelle-Zélande a été touchée plus tôt. Elle est rentrée aussi dans leur hiver. Et actuellement, j'essaye de me renseigner sur ce qu'est la situation
en Nouvelle-Zélande,
dans l'hémisphère sud, qui ont connu aussi l'épidémie de Covid. Il n'y a pas de résurgence d'être une catastrophe sanitaire actuellement.
Ouais, 5 millions de confinés à Melbourne, 11 000 morts déjà au Chili. Oui, il faut voir de près. C'est pas non plus la fête, mais tu as raison, ça n'est pas l'explosion qu'on aurait pu attendre. À suivre de près. D'ailleurs, beaucoup de gens disent que la France doit suivre la Nouvelle-Zélande, puisque la Nouvelle-Zélande a quelques mois d'avance sur la France. C'est un peu le même climat. Faut suivre ça. Elle est dans l'hémisphère sud, nous dans le nord. Et voilà, on est un peu deux pays qui, à bien des égards, sur le plan climatique, se ressemblent. Donc suivons les affaires. Bon, mesdames, messieurs, il est 13h36. Merci à cet infirmier libéral de Mérignac, en Gironde, qui jette un regard sociétal et assez iconoclaste sur la question du masque, finalement. Lui, l'infirmier, nous dit, il faut savoir le type de société que nous voulons. Faire porter le masque aujourd'hui collectivement à la population française, ça n'a pas de sens. Bon, c'est un point de vue, ça n'est pas le mien. Vous continuez à nous appeler au 3216.
RMC, midi 14h. Brunet Neumann.
RMC, midi 14h.
Brunet Neumann, Éric Brunet.
Mes petits amis, vous êtes très nombreux à appeler. C'est fou, hein. Vous êtes très nombreux à appeler sur cette question. Est-ce que le gouvernement doit rendre obligatoire le port du masque dans les lieux fermés. Je parle de voilà, les commerces, les galeries commerciales, je parle de la poste, de tous les services publics. Voilà, à partir du moment où il y a un lieu fermé recevant du public, hein, on ne parle pas de chez vous, la maison, hein, mais un lieu fermé recevant du public, faut-il que le masque soit obligatoire ? Je dis oui. Vous êtes assez nombreux à dire oui. Il y a par exemple 14 médecins, dont l'urgentiste Philippe Juvin, qui ont envoyé une lettre, hein, qui ont ouvert une lettre ouverte, justement, qui disent ben voilà, il faut se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard pour éviter un nouveau confinement, plus ou moins complet. Donc eux, ils disent oui, le port du masque, c'est une nécessité absolue dans les lieux publics. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Des petits messages peut-être. Oh, douce Lisa Marie.
Eh bien oui, alors moi je voudrais, avant de lire des messages, quand même regarder un petit peu ce qui se passe dans les autres pays. On en a discuté en préparant l'émission. Je trouve que c'est intéressant quand même de regarder ce qui se passe chez nos voisins.
Ah.
Il faut savoir qu'en Belgique, depuis samedi, le port du masque est obligatoire dans les magasins, les centres commerciaux, les cinémas, les salles de spectacle, les lieux de culte, les musées, les bibliothèques, les casinos, les agences bancaires. Et ceux qui ne respectent pas cette obligation s'expose à une amende de 250 euros quand même.
Bah oui, le mec qui va à la BNP ou à la Société Générale déposer son petit chèque, effectivement, je trouve que les Belges ont raison, il faut que ce soit obligatoire.
En Allemagne aussi, c'est obligatoire à la fois dans les transports, comme chez nous, mais aussi dans les magasins et partout où la distanciation ne peut être respectée. Même chose au Portugal. En Algérie et au Maroc, c'est obligatoire dans l'espace public. Au Maroc, il faut savoir que l'amende, elle va entre 300 et 1300 dirhams, donc entre 30 euros et 130 euros, et même 3 mois d'emprisonnement sur non-respect du port du masque.
Oui, d'accord.
Donc il y a des pays qui sont quand même, qui ont des mesures quand même assez fortes. Nous, on est sur des mesures modérées, puisque pour chez nous, c'est obligatoire dans les transports, dans les restaurants et bars pour se déplacer à l'intérieur, dans les EHPAD, dans les écoles et les lycées, ça l'était avant la fin des cours. C'est obligatoire pour le personnel des restaurants et des bars. Et pour les autres commerces, c'est au libre choix des commerçants. C'est pour ça qu'on reçoit beaucoup de messages de commerçants qui nous disent on ne peut pas forcer les gens, puisque quand on leur demande une fois, deux fois, trois fois, bon, bah, s'ils ne veulent pas le mettre... C'est assez difficile à faire appliquer.
Bien, Lisa Marie, est-ce que tu as reçu je t'autorise deux messages, là, si tu veux. Vas-y, c'est à toi.
Message de Nathalie qui nous dit « Vu que les gens sont incapables de se discipliner, c'est malheureusement indispensable de mettre l'obligation dans les lieux clos qui le nécessitent, type centre commercial, magasin. » Et puis, il y a Cosmo qui dit « La manière dont le masque est porté le rend ridicule. On remet le masque dans sa poche, on s'en sert toute la semaine. Et qui a repassé ou lavé son masque en tissu ? Dites-moi. »
Bon,
RMC, Brunet-Neumann,
32-16.
Allez, on ira en Alsace dans un instant, à Mulhouse, région très touchée par le Covid. On dit la Covid, tu as vu, hein, Lisa Marie.
La Covid, effectivement, dans les pubs, la Covid-19.
Ça fait 3 mois que tout le monde dit le Covid, mais en fait, dans les pubs officielles, c'est la Covid, puisque c'est une maladie, la Covid-19. On ira à Mulhouse, mais tout de suite, on est avec Nathalie à Toulon. Salut Nathalie.
Oui, bonjour Eric.
Bonjour ma chère Nathalie, que fais-tu dans la vie ?
Je suis infirmière libérale.
Ah ben, on a eu un collègue de Mérignac, infirmier libéral, il y a quelques instants.
Oui, tout à fait.
Contre le masque, lui, il disait non. Toi, tu dis la même chose ?
Non, moi, je dis oui, parce que, pour plein de raisons. D'abord, parce que je pense qu'il y a un petit souci, c'est que quand on parle de ce que dans quelle mesure le masque aide, c'est qu'il protège les autres. À part les FFP2, que nous avons eu énormément de mal à obtenir au moment où éventuellement il y avait le pic et où nous on risquait autant que les gens, on n'avait que des masques chirurgicaux. Quand on met un masque chirurgical, on protège les autres de tout ce qui est postillon, de tout ce qui est... Nous, on fait des soins, évidemment, où on est au contact des gens. Et on les protège en mettant ces masques-là. Il n'y a que les FFP2 qui nous protègent, nous. Mmh. Alors, les FFP2, il faut reconnaître que c'est très compliqué de travailler avec, de faire des soins dans une salle de bain surchauffée, de monter les étages. Mais bon, moi, j'ai fait l'effort, il n'y a pas de souci. Maintenant, vu que nous, dans le Sud, en plus, on a été quand même relativement... pas trop touché, en particulier à Toulon, il n'y a pas eu énormément de cas. Donc moi, je cherche surtout à protéger les autres. Ce que je trouve comme ça, quand même, c'est pas tout à fait logique. Là, je rejoins par contre mon collègue, c'est que les gens le mettent un peu n'importe quand, n'importe comment. Alors moi, je vois des gens dans des voitures, apparemment, c'est des familles, ils ont le masque complètement mis, hein, sur le nez, sur la bouche. Par contre, ils rentrent dans les commerces, ils l'enlèvent pour discuter avec la caissière. ce qui est complètement vraiment ça sert à rien, ça correspond à rien. Et dans les lieux, comme tu dis, dans les lieux confinés, je pense pas que ça demande tant d'efforts que ça de mettre un masque chirurgical dans lequel on respire quand même. Alors je veux bien croire qu'il y a des gens qui ont des pathologies respiratoires et auxquels ça pose certains problèmes, mais entre le mettre un quart d'heure, une demi-heure pendant qu'on fait ses courses et le mettre vraiment certains travailleurs de... Quand tout à l'heure tu avais quelqu'un qui travaillait sur les chantiers, là je me doute que les gens qui travaillent sur les chantiers, c'est très compliqué pour eux de faire toute la journée avec la chaleur qu'il fait à l'heure actuelle suivant les régions. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est que quand on met un masque, c'est pas pour se protéger soi. Les Asiatiques, quand ils mettent un masque, c'est pas parce qu'ils ont peur qu'on les contamine. C'est qu'ils, dès qu'ils sont enrhumés, ils mettent un masque pour pas contaminer les autres. Et nous, pour le moment, en tant que professionnels, nous, c'est sûr que de toute façon, ça reste d'actualité complètement. Ils nous arrêtent les dotations, c'est-à-dire que maintenant, ça va être à notre charge. A priori, enfin, jusqu'à nouvelle information, on va devoir payer nos masques. Bon, ça, après tout, pourquoi pas, au point où on en est. Mais je voudrais que les gens comprennent que ce soit le masque en tissu, le masque chirurgical, c'est sûr, ça ne te protège pas toi. Ça, faut pas rêver. Ça ne protège pas du tout la personne qui le porte. Mais ça limite quand même les postillons. Et du coup, tu contamines pas les autres. Et en effet, comme disaient plusieurs intervenants, on contamine quelqu'un qui, lui, va le développer, mais d'une façon complètement négligeable, et puis qui va aller contaminer une personne à risque ou une personne âgée. Ça fait une chaîne. Et si on veut briser cette chaîne, malheureusement, à l'heure actuelle, je pense qu'on n'a pas d'autres moyens. C'est un des moyens les plus sûrs et les plus faciles à mettre en place. Par contre, je suis d'accord que le gel hydroalcoolique. J'ai beaucoup de doutes sur son efficacité, la façon dont les gens le mettent. Et puis, il ne faut pas croire, parce que tu mets ça, que ça va changer la face du monde. Mais les projections...
Si les virucides ou bactéricides ou virucides, enfin, s'ils tuent le virus, si...
Oui, mais c'est pas vraiment... On sait que la plupart de la contamination, c'est quand même par des projections aériennes.
Oui, je sais pas. Oui. Tu crois, toi? Oui.
Ah, je pense quand même. D'après Enfin, je suis comme tout le monde. J'écoute ce qu'on me dit.
Moi, depuis le début, quand je suis dans la rue... Quand je croise un mec de trop près, tu sais, quand tu marches, qui a pas de masque, ou même moi, je le croise, c'est en ville, etc. Je retiens ma respiration 4-5 mètres et je reprends. Non, mais je t'assure, c'est pas 4-5 mètres, ça fait 2 secondes. Voilà, je retiens ma respiration 2 secondes et je reprends ma respiration pour pas respirer son sillage de respiration immédiat.
Oui, tu vois. Bon,
c'est un truc à la con, mais je fais ça.
Non, mais c'est vrai. Après, c'est vrai que là où franchement, il y en a aussi qu'on dit pas mal de choses intéressantes, c'est qu'il faudrait apprendre aux gens comment mettre le masque. Ouais. Et surtout, quand ils l'enlèvent, s'ils veulent le réutiliser, comment ils doivent l'enlever. Moi, je sais qu'il fait tellement chaud en ce moment, bon, à Toulon, puis partout ailleurs. Puis nous, on fait des soins dans des petites salles de bain. Donc, sincèrement, on a des moments pénibles. Dès que je sors, je l'enlève, mais je fais attention comment je l'enlève. Je touche par les élastiques, je le mets à côté de moi dans la voiture. Mais c'est sûr que si on le met sous au niveau du cou et qu'on le remet...
Ouais. Ça, on fait tous des conneries pour ça. Merci Nathalie.
Salut. Allez, au revoir Eric.
Au revoir Nathalie. Au revoir. On va à Mulhouse, on quitte Toulon, on va à Mulhouse. Bonjour Célia.
Bonjour.
Que fais-tu ma chère Célia?
Alors, je suis formatrice à Mulhouse.
Dans quel domaine?
En management.
En management. Bon, dis-moi, ce masque, faut-il que le gouvernement le rende obligatoire dans les lieux fermés, les services publics, les casinos, les magasins, les galeries commerciales?
Alors, moi déjà, ce que je voulais te dire, si je peux me permettre de te tutoyer,
oui.
Je voulais juste faire une petite dédicace pour mon mari, parce que c'est lui qui écoute RMC, en fait, il est chauffeur de bus à Mulhouse. Et chaque fois que je lui parle du masque, du corona et de tout autre sujet de la vie en général, il dit « Oh punaise, tu parles bien, s'il te plaît, appelle RMC pour donner ton opinion. » Donc voilà, là, c'est vrai que j'appelle pour mon mari pour lui faire plaisir, et puis c'est vrai que j'aimerais bien aussi m'exprimer par rapport...
Maintenant, tu vas nous écouter tous les jours.
Voilà
c'est excellent pour ton couple d'ailleurs, comme ça vous nous écouterez tous les deux. Comment il s'appelle ton mari dans son bus à Mulhouse?
Il s'appelle Mohamed.
Mohamed, tu l'embrasseras pour nous, Mohamed.
Ouais, et surtout,
j'imagine que Mohamed, il s'est pris un énorme scud avec l'histoire de Bayonne, de ce chauffeur de bus qui est décédé avant le week-end.
Oui, il
avait demandé juste porter un masque quand vous entrez dans mon bus, ouais. et puis prenez un ticket. Voilà, ils l'ont.
Bon, ça va. Les mesures à Mulhouse au niveau du bus sont assez strictes et d'accord. Les gens respectent. Mais voilà, moi aujourd'hui j'appelle pour dire que je suis contre le port du masque.
Et ouais. Non.
Contre le port du. Eh si.
Ah bon, mais pourquoi enfin.
Eh ben justement, je vais t'expliquer. Alors c'est vrai que moi au début j'ai vraiment pris peur. Hein. Je pense que c'est vraiment le terme qu'il faut employer. J'ai vraiment pris peur avec tout ce qu'on nous racontait à la radio, à la télé, les compteurs. Il y a eu telle mort, tel cas positif, etc.
Oui.
Alors je remets pas en question les informations qui nous ont été voilà, transmises à la radio ou à la télé, mais je dis juste que le maître mot c'était la peur.
Oui.
Et en fait, ce que j'aimerais juste expliquer pourquoi je suis contre le port du masque pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison c'est notre système immunitaire. On en parle notre système immunitaire. On l'a complètement mis de côté.
On est immunisé.
Alcoolique. Ouais. qui va nous aider voilà à combattre le virus. Ouais. On n'a plus de système immunitaire, notre système immunitaire ça y est ne fonctionne plus. Donc il a fonctionné depuis des siècles et des siècles et là aujourd'hui il a besoin d'être assisté avec un masque et du gel hydroalcoolique. Donc ça c'est l'une des premières raisons. Moi je pense qu'on a un corps extraordinaire, très intelligent qui est capable quand on a un bon train de vie, une bonne alimentation. Et bien, à partir de ce moment-là, notre système immunitaire, il est capable de faire son travail et de se défendre quand il en a besoin. Moi, je pense que c'est déjà un des premiers arguments qui fait que, du coup, le masque et le gel hydroalcoolique n'est pas nécessaire
morts,
à mon sens.
30 000 morts, quand même, hein, 30 000 morts, et bon.
Et bien, je ne remets pas en question les morts qu'il y a eu ou voilà, tout ce qui s'est passé, mais ce que j'aimerais juste exprimer, c'est qu'on a quand même un système immunitaire.
D'accord,
et
autre argument,
ça,
tu m'as dit plusieurs
autre
arguments.
Argument. Alors, la taille d'un virus, est-ce que quelqu'un connaît la taille d'un virus?
La taille?
Est-ce que vous avez déjà entendu?
Non.
De la taille, voilà. Non. Eh bien, la taille d'un virus, c'est extrêmement, extrêmement petit et je peux vous assurer que ça passe à travers un masque. Alors, je sais que le masque n'est pas censé être porté pour se protéger soi-même, mais pour protéger les autres. Mais de toute façon, à partir du moment où il y a tout qui passe à travers un masque, quelle est l'utilité de le porter? Puisque de toute façon, même les virus qu'on sortirait en expirant, de toute façon, ils passent à travers le masque. Donc ça, déjà, pour moi, c'est un deuxième argument qui montre que pour moi, c'est inutile. Voilà, c'est à mon sens. Hein.
Bien, merci beaucoup Célia. Je suis désolé, on est un peu pris par le temps. Je suis en désaccord total avec ce que tu dis, mais t'es tellement sympa que je t'écoute quand même. Que je te fais un gros bisou, que tu embrasseras ton époux Mohamed qui nous écoute dans son bus à Mulhouse, en Alsace, régulièrement, mesdames, messieurs, quotidiennement, qu'il est 13h52 et que dans un instant, vous connaîtrez le résultat de ce qui tu choisis.
RMC, midi 14h, Brunet Neumann.
RMC, midi 14h.
Brunet Neumann, Éric Brunet.
Alors, Lisa Marie, faut-il rendre obligatoire le port du masque dans les lieux fermés?
Eh bien, vous êtes 85% à nous répondre oui, et donc à être d'accord avec toi, Éric.
Et nous allons rendre visite à notre Français de l'étranger.
RMC,
midi 14h, Brunet Neumann.
Mesdames, messieurs, nous allons acquérir dans quelques instants le Français de l'étranger.
Bonjour Cédric.
Bonjour Éric, bonjour Laurent.
Qui es-tu? Ah bah Laurent est en week-end, on le verra pas avant mercredi matin, il est dans le sud de la France. Mais il nous écoute.
Tout seul à gérer comme un grand.
Ah, comme un grand. Dis-moi Cédric, qui es-tu, que fais-tu à Londres?
Alors, je suis Cédric Filet, j'ai créé une société qui s'appelle Aldilia à Londres il y a une quinzaine d'années. Et nous avons développé une plateforme pour développer la visibilité et l'employabilité des talents en Afrique. Nous avons une présence dans une quinzaine de pays avec près de 600 personnes sur le terrain aujourd'hui.
Ça, c'est ton job. Ça, c'est donc pour des ressources humaines pour l'Afrique, voilà, c'est ça.
Exactement. Les ressources humaines pour l'Afrique, on travaille pour la plupart des sociétés internationales,
mais
également les principales sociétés panafricaines.
D'accord.
Et nous avons lancé récemment la première plateforme d'intelligence artificielle panafricaine de matching pour connecter tout ce qui est job et candidat et tout ça de manière automatique.
J'ai pigé. Où es-tu à Londres?
À Londres même, je suis dans l'ouest de Londres, dans un quartier qui s'appelle Hammersmith.
Londres est-elle une capitale plus propre que Paris?
C'était le cas, je suis pas sûr que ça le reste.
Mmh. Et pour l'instant, les gens sont assez civilisés, oui.
D'accord. Le Brexit, c'est derrière, c'est fini. On respire et on voit des perspectives encourageantes malgré la crise du Covid. À Londres, ou pas du tout? On est toujours dans la crainte de l'avenir sur le plan économique.
Non, le Brexit, c'est devant nous. C'est à la fin de l'année. Jusqu'à présent, on n'avait pas trop été impacté. Et clairement, on le voit, surtout nous, société internationale dans les ressources humaines spécialisées sur l'Afrique, avec des problématiques de déplacement, de facturation. Nous sommes profondément européens, citoyens du monde, avec des nationalités du monde entier, et le Brexit va nous impacter. Et clairement, nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir à nous relocaliser en Europe continentale.
Dis-moi, Londres, ça reste toujours la ville où on parle français à tous les coins de rue ?
On parle français, on parle de plus en plus brésilien à Londres. La crise économique brésilienne a fait que beaucoup de Brésiliens sont arrivés également. Il y a une dizaine d'années, il y avait 600 000 Français à Londres. Et aujourd'hui, ça a un petit peu baissé avec le Brexit, mais effectivement, tu peux venir à Londres et tu risques d'entendre français assez régulièrement. Il y a des quartiers qui sont très, très connotés auprès de la communauté française.
D'accord. Bon, tu aimes cette ville, elle a une dimension électrique extrêmement... À Londres, tout bouge, tout va vite, c'est assez enivrant. C'est pas une ville où on roupille.
Non, c'est pas une ville où on roupille, ou alors on roupille pas longtemps. Ça ne s'arrête pas, c'est quand même fatigant. Mais il y a un sacré buzz. C'est une ville extrêmement internationale, extrêmement dynamique, où tu as droit à l'essayer, tu as le droit à l'échec, et si tu te plantes, tu redémarres. Et donc c'est ça qui est bien.
C'est pour ça qu'on aime Londres. Merci Cédric, dirigeant d'une société de recrutement pour le continent africain qui est à Londres en Angleterre. Merci donc Cédric. Et mesdames, messieurs, je dois vous dire que nous sommes en ligne avec Jean-Marie. Salut Jean-Marie.
Salut Eric.
Salut. Donc Jean-Marie n'est pas le français de l'étranger. T'es où toi, non. Jean-Marie? Tu habites dans quel coin?
Moi, j'habite à Bordeaux.
Tu habites à Bordeaux?
Au sud-ouest.
Voilà, et ben tu vas te faire une sacrée belle transversale parce que tu as gagné un séjour pour 4 personnes dans ce fameux parc Europa Park qui n'est pas forcément très connu en France mais qui a été élu meilleur parc d'attractions du monde. Voilà, et tu vas aller là-bas. C'est tout près de Strasbourg mais côté allemand avec l'accès au parc Atlantique Rulantica et puis nuit d'hôtel dans un 4 étoiles. Donc ça a de la gueule, mon pote. Voilà,
c'est super, Eric. Je te remercie beaucoup. C'est vraiment top. Moi, j'adore les parcs d'extraction, donc ça tombe bien.
Entendu. Je t'embrasse, mon Jean-Marie. Salut à toi.
Pareil. Allez, salut.